Vous l'avez lu?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez?
Vous pouvez me le prolonger?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors?
Zeste de culture, l'émission de l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan. Nous vous servons un cocktail vitaminé de livres, musique, films et jeux. Nous vous invitons aussi à nous retrouver lors de nos animations tout au long de l'année. À l'antenne aujourd'hui, Carmela, Patricia, Christelle et moi-même. Et on attaque directement avec la sélection romans adultes.
Bonjour Gaëtan, bonjour tout le monde.
Bonjour Carmela.
Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, édition Kalman-Lévy. L'auteur Jérôme Loubry est né en 76. Il a d'abord travaillé à l'étranger, puis il a voyagé. Et en voyageant, il a écrit pas mal de nouvelles, toujours éditées chez Kalman-Lévy. Désormais, il est installé en Provence et il a publié depuis 2017, chez Kalman-Lévy, son premier roman, Les Chiens de Détroit, qui a eu le prix Plume Libre d'Argent en 2018.
Et aujourd'hui, tu vas nous présenter Les Sœurs de Montmort, c'est bien
ça ? Oui, Les Sœurs de Montmort. Alors, je ne vais pas vous dévoiler ce que dit exactement le titre, parce qu'il y a les sœurs dedans, mais je ne vous en parlerai pas. Voilà, vous le découvrirez à la fin du livre.
Très bien.
Donc, je présente le livre. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort. C'est un petit village, desservi par une route unique, une seule. Alors, il s'imaginait atterrir au bout du monde. Il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipée d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Et puis il y a une montagne, la montagne des morts, qui surplombe le village. Elle est considérée longtemps comme une roche tarpéienne. Mont Tarpeien, c'est un lieu de l'ancienne Rome d'où l'ont précipité certains criminels. Là, dans notre livre, ce sera à l'ancien temps les sorcières qui était précipité dans le vide. Et son arrivée coïncide avec une série de morts mystérieuses, des décès violents qui jalonnent l'histoire du village, et puis des voix, des superstitions qui hantent certains habitants. Un vieil homme, par exemple, qui demande à la bibliothèque toujours le même livre, mais qui n'existe pas. Mais tous les jours, il y va, et tous les jours, c'est la bibliothécaire qui se prend dans les dents qu'elle est nulle, parce qu'elle n'arrive pas à lui trouver son livre. Et sa nouvelle vie va vite prendre un tournant lorsque le maire du village va lui donner la mission de reprendre l'affaire concernant la disparition de sa fille, mais qui date de 10 ans. Et il reprend cette affaire et se rend compte que le village recèle un très sombre passé rempli de sorcellerie.
Ok, donc on est sur un thriller, a priori sur une forme de whodunit. Donc est-ce que tu as réussi à deviner la fin de l'intrigue?
Ah, j'ai essayé de deviner au cours de la lecture ce qui se cachait derrière tous ces morts. Échec total. Pas l'ombre d'un début de piste. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère glaçante, les doutes des personnages, et puis le questionnement de ce qui est réel ou pas. Mais même nous, quand on le lit, on se demande si c'est vrai ou pas vrai, si ça fait partie de l'histoire. Et la fin de l'histoire m'a soufflé, justement. Je ne m'attendais pas à une telle issue. Je n'aurais pas imaginé une seconde qui était l'auteur de tous ces crimes et ces suicides atroces. Un roman avec beaucoup de rebondissements. Par exemple, il y a le vieux monsieur qui demande toujours son livre à la bibliothèque. Qu'un soir, on nous raconte qu'à travers les caméras, on le voit en train de s'asperger d'essence, lui et son chien. Et il se met le feu à lui. Et pourquoi ? Il n'y a personne sur cette place. Il ne se passe rien. Voilà. Donc, bien sûr, le gendarme, enfin, les policiers le voient à travers les caméras. Ils se précipitent, mais trop tard.
Et tous les personnages sont comme ça, du coup.
Voilà. Il y a pas mal de personnages comme ça. Beaucoup de gens qui entendent des voix. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. On se dit, c'est quoi ? Mais pourquoi ? Et donc, il y a une policière. Il y a toujours quelqu'un derrière elle qui lui demande si elle va bien.
Ouais. Donc plus que la raison, enfin le coupable au moins la personne qui perpétue ça, c'est même déjà comprendre le phénomène pur.
Voilà, le phénomène pur qui se passe dans ce village. Et c'est dans ce village, quoi. Hein.
Ouais.
Donc, il y a eu pas mal de décès avant, effectivement, des choses inexpliquées. Et bon, on se laisse prendre par cette histoire qui... On a l'impression qu'elle va nous mener à rien, quoi.
Mmh.
Mais bon...
Ça fait envie. Hein. Qu'est-ce qui t'a le plus plu là-dedans ?
Ah ben, j'ai adoré du coup le côté machiavélique. Hein. Et puis le suspense qui monte, crescendo, qui nous prend à la gorge pour ne plus nous lâcher. Et puis cette montagne aussi envoûtante, elle est toujours là dans ce village. Hein. On nous la raconte, on nous la décrit. Du coup, il y a plein de fantômes qui rôdent. Puis les hallucinations, les suicides qui s'enchaînent, comme une hystérie collective qui prendrait en otage le village. Une malédiction. Mais les croyances, les légendes, ah, ça n'explique pas tout. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, même si je n'arrivais pas à comprendre ce qui leur arrivait, comme l'impression d'être l'un d'entre eux, et de subir également la situation. Je me suis sentie en danger, désemparée par cette folie et cette violence, et plongée en pleine incompréhension. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Venez découvrir ce livre et peut-être en parler un peu plus avec moi. Donc il est disponible à la médiathèque de Saint-Madé.
Impeccable, donc on va enchaîner, j'ai la lourde tâche de prononcer l'intermède. Donc qui sera Nièce Biesignès du groupe Witcher. Et on enchaîne avec la sélection cinéma adulte que je vais présenter.
Et oui, c'est Gaëtan qui va nous présenter son DVD ce mois-ci. Et
ouais.
Donc tu nous présentes...
Je vous présente Titane de Julia Ducournau. Donc Titane qui est le second long métrage de Julia Ducournau, après le court métrage Junior qu'il avait déjà un peu fait remarquer, Grave, qui là par contre l'a mis sur le devant de la scène, et qui a confirmé avec Titane, en plus de ça, confirmation à la fois critique et au public, parce que le film a bien marché, et il a notamment remporté la Palme d'Or à Cannes, ce qui doit être une première pour le cinéma d'horreur, il me semble.
Et on y retrouve qui comme acteur ?
Alors, entre autres, on a surtout, c'est la grosse tête d'affiche, Vincent Lindon, qui tient un des rôles principaux. Le second personnage, c'est Agathe Roussel, c'est l'autre partie du binôme de personnages principaux, donc qui est beaucoup moins connu que Vincent Lindon, mais pourtant le duo fonctionne hyper bien. Donc pour présenter le duo de personnages, on est sur ensuite Alexia, donc qui est une jeune femme perdue, traumatisée, mutique, qui a de très mauvaises relations avec tout le monde, qui s'enferme, et là pour le coup qui est poursuivie dès le début du film pour une série de meurtres bien graphiques, qui ne sont absolument pas épargnés. De toute façon, les premières minutes du film sont hyper éprouvantes. Le premier quart d'heure, il est costaud. Donc voilà, donc il est en fuite, et donc pour sa fuite, elle est à cause de ces meurtres-là, elle se travestit en homme, et elle tombe, suite à quelques péripéties, sur Vincent Lindon, donc son personnage Vincent, qui est chef de pompier, enfin qui est officier chez les pompiers, et qui, lui, n'arrive pas à faire le deuil de son fils, Adrien, qui a disparu il y a 10 ans. Et leur rencontre fortuite, en fait, Alexia va se faire passer pour son fils Adrien, et lui va le récupérer, va presque fantasmer ce mensonge et essayer de recréer cette famille-là. Le problème, c'est que Alexia est enceinte. Et elle est probablement enceinte de quelque chose de particulier, parce qu'elle mute. Elle mute en espèce de... femme hybride machine, et le film nous montre cette transformation là à côté de la relation père fils fille se crée, quoi.
Comment on arrive à brasser tous ces thèmes justement dans...
C'est vrai que le film nourrit pas mal de thèmes. Il mélange beaucoup beaucoup de choses. Il est très riche en termes de thématiques. Donc, il parle notamment d'humanité, de relations filiales, aussi du fait de se mentir à soi-même, des mensonges qu'on peut avoir en soi et qui nous poursuivent sur notre vie et qui dictent nos choix. Mais surtout, le point central de ce film, et qui de toute façon parcourt la filmographie de Julia Ducournau, c'est le corps, c'est la chair, c'est le corps dans tout ce qu'il peut avoir d'érotique, sensuel, genre mutique, hyper inconsistant, mais aussi sale, répugnant. Et c'est toute cette manière-là, et surtout qui est montrée par une mise en scène qui est toujours très sensorielle. C'est-à-dire que toutes, justement, les transformations de la chair et toutes les atteintes qu'on peut lui faire ou toutes les belles choses qui peuvent ressortir d'elle sont montrées de manière de sorte à ce qu'on ressente les choses de manière très viscérale. Et du coup, c'est pour le meilleur et pour le pire, vu qu'on est sur du cinéma d'horreur. Parce que, principalement, les influences de Julia Ducournau, qui sont encore très présentes, qui étaient déjà présentes dans ses films d'avant, c'est surtout David Cronenberg, qui est son cinéaste favori, donc qui est le réalisateur, entre autres, de La Mouche, Scanners, Crash, notamment, plein de films comme ça, qui a développé ce concept de body horror, donc c'est l'horreur qui est basée justement sur la destruction du corps, sur son altération, sur sa transformation, et que Julia Ducournau nous montre allègrement, mais aussi Duvels, le réalisateur belge, qui partage sa nationalité avec Julia Ducournau, qui a notamment réalisé Calvaire, qui est connu pour ce film-là, donc qui lui, pour le coup, développe une esthétique du malaise, de la prison, qui a cette capacité à enfermer son spectateur dans quelque chose de pas agréable, mais pourtant d'hyper hypnotique, qui nous attrape. Voilà.
Effectivement, ça donne envie. Mais du coup, il y a des mises en scène quand même assez, assez fortes.
Ouais, Julia Ducournau, en plus de développer cette mise en scène du corps, elle a aussi tout simplement des codes cinématographiques qui sont hyper maîtrisés, notamment, et qui racontent toujours quelque chose. C'est jamais stérile, c'est jamais gratuit, en tous les cas. Et même, d'ailleurs, pour toutes les séquences d'horreur qui sont évidemment très, très chargées. Mais en tout cas, sur sa mise en scène, effectivement, elle utilise le langage cinématographique souvent à bon escient, notamment sur une séquence d'intro. Alors, sans vous dévoiler du tout le contexte, mais on a un plan séquence d'une danse sur une voiture, parce qu'Alexia danse dans des clubs de voitures. Donc une danse assez érotique, pas loin de quelque chose qui se rapprocherait du striptease, voire du pole dance. Et il y a un plan séquence autour d'elle qui est incroyable, où la caméra tourne autour d'elle, tourne autour de cette voiture, passe dans le public, dans ce public qui est complètement fou sur mise en scène. Enfin, un plan qui a dû prendre des heures et des heures en termes de technique, c'est dingue. C'est très beau, et aussi, je retiens aussi une autre séquence qui fait presque une respiration dans ce film-là, qui est assez compliqué à soutenir. C'est une séquence de balles des pompiers qui est filmée au ralenti, qui est très belle, qui rappelle notamment des cinéastes comme Sofia Coppola, donc quelque chose d'hyper pur, très éthéré, qui fait presque clip de chansons un peu boîte de nuit. Enfin, c'est trop beau, avec de très très belles gestions de couleurs aussi. Enfin, Julia Ducournau, c'est quelqu'un qui est très très fort au niveau des thématiques et dans la manière de les rendre, mais aussi tout simplement en termes d'image, une maîtrise des images qui est absolument formidable.
Voilà. Donc un film incroyable, mais éprouvant, alors
ouais.
Pour qui
Alors, pour ses personnages,
oui.
Mais pour nous surtout.
Oui.
Voilà, c'est effectivement un film qui a évidemment, cinéma d'horreur oblige, et cinéma d'horreur qui se veut sérieux et démonstratif. On pourrait parler, en exagérant un peu, de cinéma gore, le body horror en est un sous-genre. Donc c'est un film éprouvant, donc effectivement qui est déconseillé aux personnes qui ont du mal avec ça, malheureusement. Mais par contre, c'est un film qui est assez brutal, qui n'est même pas spécialement agréable à voir en soi, mais qui est une vraie expérience de cinéma. C'est-à-dire qu'on y va pour les sensations. Et il nous les donne de manière extrêmement généreuse.
Très bien.
Et donc il a retrouvé la médiathèque de Saint-Sever.
Merci Gaëtan.
Parfait. Et donc je vais pour l'intermède musical, histoire de rester dans quelque chose d'à la fois un peu inhumain, entre cet aspect homme-machine, etc., et un peu déshumanisé, je vous propose The First Supper de Daughters. You're welcome, Dad, if you can find a new dad.
sur Radio MDM 93.8 avec l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan.
Et nous enchaînons avec la sélection jeunesse.
Bonjour. Alors c'est d'humeur malicieuse ce matin que j'ai eu envie de vous présenter le très bel album de Marie Cellier et Aurélia Fronti, Chenille Poilue, paru aux éditions Piquier Jeunesse en 2021. Alors c'est un format 34x24, une couverture turquoise sur laquelle se mêle la silhouette d'une jeune fille en kimono et des insectes colorés.
Et de quoi ça parle ?
Alors de quoi ça parle ? Donc là on a tous les personnages principaux déjà sur cette couverture. Donc Chenille Poilue, c'est l'histoire d'une princesse, oui classique, mais pas d'une princesse comme les autres. Des princesses ordinaires, il y en a, oui, dans ce royaume. Il y en a tant et tant qu'il est même impossible de les compter. Alors elles s'ennuient à mourir et passent leur temps à s'occuper de chignons et de papillons. Toujours rien de très original. Mais Chenille Poilue, elle, à cette mode insolite, idiote, préfère les insectes. Les limaces, les escargots, les cafards, les araignées, coléoptères, chenilles et autres bestioles. Cette passion lui a valu son surnom, au grand désespoir de sa mère. Son père, au contraire, lui, trouve ça assez poilant. Et tout ce qui l'intéresse, notre Chenille Poilue, ce sont ces petits spécimens à qui elle donne des surnoms trop mignons. Kiki, Poupouné, Minouché ou Roudoudou. Si bien que quand un jour, trois princes lui font la cour, elle n'hésite pas à les repousser, sans ménagement mais non sans humour. Par contre, quand un certain Pou Céleste, admirateur secret, lui envoie une fourmi yéti, une mouche à cornes argentées ou un scarabée chauve-souris, sa curiosité est piquée. Elle veut le rencontrer. Il n'est ni prince, ni beau, mais il a beaucoup d'esprit. Le rendez-vous est pris. On raconte qu'il ne ressortit jamais du palais de Chenille Poilue. Que se passa-t-il ensuite ? À vous de voir. Mais, je cite, je ne peux pas m'en empêcher, « certaines mauvaises langues prétendent aussi qu'elle le retint prisonnier, avant de le servir à déjeuner à ses petits protégés. Mais on dit tellement de choses, et quand bien même c'était il y a si longtemps, savoureux non ? J'ai rarement l'habitude d'en divulguer autant sur le déroulé d'une histoire, et là j'ai carrément spoilé la chute, mais elle est tellement savoureuse, à lire et à relire sans aucune modération. »
Donc au final, malgré l'aspect peut-être effectivement archaïque, mais voilà, très, très intemporel, est-ce qu'il relève d'une vraie modernité ?
Mais carrément. D'ailleurs, vous ne me croirez jamais si je vous dis que c'est une adaptation d'un très très vieux conte japonais qui date du XIIe siècle. Et ça s'appelait « La princesse qui aimait les insectes ». Voilà, donc une incroyable modernité. Donc je vous laisse imaginer le choc que ça a pu être à l'époque.
Ouais, c'est clair. Ça a été bien reçu.
Ça, je sais pas. Peut-être qu'ils étaient plus ouverts à l'époque qu'aujourd'hui, je sais pas.
C'est vrai.
C'est un autre débat.
Et est-ce qu'il est servi par... Enfin, comment sont les illustrations ?
Ouais, alors les illustrations, elles font l'objet d'un travail extrêmement minutieux, ce qui va très bien Aurélia Fronti, puisqu'elle a l'habitude de travailler les détails et elle avait un œil acéré pour les motifs. Donc en fait, on ne sait pas vraiment si c'est le dessin qui est au service du texte ou si c'est le texte qui est au service du dessin. En tout cas, les deux se complètent à merveille et les détails nourrissent et habillent les pages.
Du coup, pourquoi tu conseilles cette lecture ?
Alors, je conseille cette lecture. Déjà, je la conseille à tout le monde, hein, ouais. De 0 à 99 ans. C'est une lecture vivifiante et pleine de protéines et d'humour. Donc je la conseillerais même à lire une fois par semaine jusqu'à ce qu'il vous pousse des ailes. Et ce sera mon dernier mot.
Et pareil, merci beaucoup.
Et comme intermède musical, pour rester dans l'euphorie du moment, je vous propose It's Oh So Quiet de Björk. You wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so
Et nous enchaînons avec la sélection jeux.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Que diriez-vous d'une bataille de lombric rêvant de conquérir le monde? C'est pas banal. Et c'est un jeu qui s'appelle Worm Lord pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. Et puis pour une durée à peu près de 20 minutes en fonction de votre réactivité. En effet, Worm Lord, c'est un jeu de dextérité et de rapidité.
Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte?
Alors, on trouve des tuiles carrées qui vont composer le plateau de jeu, en fait. On va les disposer aléatoirement et ça va nous donner un plateau de jeu carré, classique. Voilà, ces tuiles sont illustrées. Donc, il y a les tuiles neutres sur lesquelles on pourra se déplacer. Il y a les tuiles objectifs qu'il va falloir conquérir et les tuiles obstacles sur lesquelles on ne pourra pas passer. Ensuite, les lombrics sont représentés par des petites cordelettes qui ressemblent fâcheusement à des lacets de chaussures, pas très longs. Et on se voit attribuer un paquet de lacets comme ça qui vont symboliser les lombrics. On a ensuite un cube qu'on va appeler quartier général et qui sera un outil stratégique pour empêcher les adversaires de venir nous embêter.
Et tu disais que justement le plateau était constitué de 58 carrés, qu'on dispose de manière aléatoire, ça sert à quoi? Quel est le but?
Ben ça sert à renouveler les parties, c'est jamais pareil puisqu'on tire les cases aléatoirement. On peut avoir des parties compliquées parce que les objectifs sont loin, ou bien des parties plus simples parce qu'on les a à proximité, voilà.
Nickel. Et du coup, comment on joue? Parce que tu as parlé de quartier général, conquête, etc.
Ouais. Alors, le but du jeu, c'est d'aller conquérir, c'est-à-dire placer un de nos lombrics sur les cases objectifs. Lorsqu'on aura posé nos lombrics sur 3 cases objectifs, on pourra gagner la partie. Et pour poser nos lombrics, on prend un petit lacet, on fait un nœud, alors un nœud plat, hein, voilà. Et on dépose le lacet sur la case convoitée. Si la case est déjà occupée, ce qui peut arriver, eh bien, on prend notre petit lombric, on fait un nœud, on pose notre nœud, mais surtout, on enlève le nœud de l'adversaire et on lui remet son ver de terre dans sa réserve. Donc, en fait, on va passer notre temps à faire des nœuds, défaire des nœuds. C'est assez rigolo. Et on utilisera le quartier général pour empêcher l'adversaire de venir nous embêter. Mais alors, je trouve que pour des enfants à partir de 6 ans, c'est un peu compliqué parce que c'est vraiment très stratégique. Et si on est en plus rapide, adroit et stratégique, ça le fait.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup.
Et comme la plupart des jeux de stratégie, ça se joue en tour par tour?
Ah et non, justement, il n'y a pas de tour de jeu, on joue en simultané. Donc au top départ, tout le monde fait des nœuds.
Ok, oui, effectivement, d'où l'aspect rapidité.
Ouais.
Donc j'imagine que ça doit être une belle pagaille en termes de jeu. Est-ce que quand même il y a un cadre au-delà des règles et des conditions de victoire?
Oui, heureusement, il y a quand même quelques interdictions, on va dire. Notamment, serrer trop fort un nœud hein, pour empêcher l'autre de perdre du temps. On n'a pas le droit non plus de dénouer ses propres nœuds. On ne peut pas non plus préparer des nœuds à l'avance pour pouvoir après les poser plus tard. Voilà, il y a quelques restrictions, mais justement, c'est pour servir le jeu.
Bah, c'est parfait. Par contre, pour quelque chose comme ça qui a l'air quand même relativement fun, c'est peut-être dommage de limiter le jeu à 4 joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de le développer plus?
Si, il existe une variante, mais elle est conseillée plutôt pour des grands ou carrément des adultes. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer à 4, à 2 ou à 4, on peut doubler. On va jouer à 8, voire plus. Et c'est-à-dire qu'on va être associé à un binôme. Donc on va faire et défaire des nœuds, mais à 2. Avec une main dans le dos et puis à deux, on va tenir un lombric, t'imagines?
Ouais.
C'est un peu compliqué, mais c'est vachement marrant.
Et du coup, c'est pareil pour défaire le nœud des autres.
C'est pareil pour défaire, okay. Voilà, t'as compris.
Parfait, et après, c'est la seule chose qui change. Après, les règles restent les
mêmes,
les objectifs
restent les mêmes. C'est la difficulté qui est augmentée par le fait qu'on joue à deux.
Nickel. Bon, du coup, qu'est-ce qui te plaît particulièrement là-dedans?
Bah écoute, moi je trouve que faire des nœuds avec des cordes, c'est original, je trouve ça sympa. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de rapidité sur le marché, mais celui-là, il a la particularité de se distinguer en fait, parce qu'il y a de la dextérité, il y a de la rapidité, on peut ajouter de la stratégie, c'est assez complet. Et j'aime bien la version adulte pour le fun.
Ouais, bon, nickel, c'est tout pour moi, merci.
Donc un petit jeu original, sympathique à jouer, autant avec des enfants qu'avec des adultes. Les parties sont rapides, donc on peut les enchaîner sans se lasser. Voilà, vous pouvez retrouver Worm Lord à votre médiathèque de Saint-Sever. Donc maintenant, je vais vous présenter toutes les animations du mois de mars 2022 de vos médiathèques. On commence le samedi 5 à la médiathèque de Saint-Sever, une nouvelle animation, un atelier dessin. 2 heures de dessin, de discussion et de conseils autour du manga, sans prise de tête. Voilà ce que vous retrouverez dans cette animation mensuelle. Cela se passera à 10h, c'est pour les ados à partir de 12 ans et c'est sur inscription à votre médiathèque de Saint-Sever au 05 58 76 35 23. Nous poursuivons avec le mercredi 9, toujours à la médiathèque de Saint-Sever, raconte-moi, joue avec moi. Venez partager une heure de contes et de jeux dans une ambiance douillette et magique. Ce mois-ci, mais qui est qui ? Nous vous attendons à 16h30 pour les enfants à partir de 3 ans et toujours sur inscription à votre médiathèque de Saint-Sever. Le jeudi 17, une nouvelle animation également à la médiathèque de Jeune. Des livres et nous, mais pas que, des films, de la musique et du blabla. Appuyez sur pause et venez partager vos coups de cœur. Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent, confrontez vos émotions au détour d'une conversation. Délivrez-nous, mais pas que, est un moment de découverte, de rencontre, d'écoute et de rire aussi. C'est à partir de 17h, c'est pour les adultes et l'entrée est libre, à la médiathèque de Jeune. Ensuite, le samedi 19, pour fêter la semaine de la langue française, vos médiathèques de Jeune, Ajetmo et Saint-Sever proposent une grande dictée collective. Venez sans faute dans une de vos médiathèques. C'est à partir de 10h, pour adultes et ados, dès 12 ans, et c'est sur inscription. Le samedi 26, à la médiathèque de Saint-Sever, l'animation « Délivrez-nous », mais pas que, qui se passera à la librairie La Louve, place du Tour de Sol, à Saint-Sever, puisque cette animation a été élaborée en partenariat avec elle. Vous pouvez venir à partir de 10h, c'est pour les adultes et l'entrée est libre. Et nous terminerons le mois de mars à la médiathèque de Saint-Sever pour une rencontre lecture. Au programme, le roman « L'homme en rouge » de Julian Barnes. C'est une rencontre animée par l'auteur et l'éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs Saint-Severin en partenariat avec la médiathèque Chalosse-Tursan de Saint-Sever. C'est à partir de 18h pour adultes et l'entrée est libre. Cette animation se tiendra à la Maison des Associations, au-dessus de la Poste à Saint-Sever. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la médiathèque de Saint-Sever au 05 58 76 35 23.
Retrouvez toutes nos actus sur le site www.chalosse-tursan.fr et sur la page Facebook. Zeste de culture, l'émission des médiathèques Chalosse-Tursan. Nous vous disons à bientôt sur les ondes de Radio MDM.
Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle, vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?